parole du jour avec le Père Willem.
Redécouvrir l'école du silence. Nous commençons par une citation de Jean-Michel de la Comté, qui a écrit un très bel ouvrage intitulé « Petit éloge des amoureux du silence ». Il y a toujours dans le silence de l'inattendu, une beauté qui surprend, certaines tonalités qu'on goûte avec la finesse d'un gourmet, un repos au goût exquis. N'allant jamais de soi, il advient comme mu par une force intérieure. Le silence se dépose, il se présente d'une démarche simple et soyeuse. Le silence n'est pas seulement absence de bruit, nous l'avons presque oublié. Les repères auditifs se sont dénaturés, affaiblis, désacralisés. La preuve, oui, il y a une certaine peur du silence, voire l'effroi suscité par le silence se sont parfois intensifiés. Dans le passé, les hommes d'Occident goûtaient la profondeur et les saveurs du silence. Ils le considéraient comme la condition du recueillement, de l'écoute de soi, de la méditation, de l'oraison, de la rêverie, de la création et surtout comme le lieu intérieur d'où la parole émerge. Ils ont détaillé les tactiques sociales. La peinture était pour eux parole de silence. Regarder un magnifique tableau, c'est laisser entrer en soi les gestes du peintre qui, avec son pinceau, révèle la beauté de la nature qu'il a su adopter par son regard et son cœur et par son intelligence. Et nous suivons ce pinceau qui nous donne les points de silence pour notre vie. L'intimité des lieux, celle de la chambre et de ses objets, comme celle de la maison, était tissée de silence. Depuis l'avènement de l'âme sensible au XVIIIe siècle, les hommes inspirés par le code du sublime appréciaient les 1000 silences du désert et savaient écouter ceux de la montagne, de la mer et de la campagne. Le silence témoignait de l'intensité de la rencontre amoureuse et semblait condition de la fusion. Il présageait la durée du sentiment, la vue du malade, la proximité de la mort, la présence de la tombe suscitait une gamme de silences qui ne sont aujourd'hui que résiduels. Comment mieux les éprouver sinon en plongeant dans les citations de tant d'auteurs partis dans une véritable quête esthétique. En les lisant, chacun met à l'épreuve sa propre sensibilité. Trop souvent, l'histoire a prétendu expliquer, quand elle aborde le monde des émotions, il faut aussi et surtout faire ressortir, en particulier quand les univers mentaux ont disparu. C'est pourquoi un grand nombre de citations révélatrices sont indispensables. Elles seules permettent au lecteur de comprendre la manière dont les individus du passé ont éprouvé le silence. Désormais, il est difficile de faire silence, ce qui empêche d'entendre cette parole intérieure qui calme et qui apaise. La société enjoint de se plier au bruit afin d'être parti du tout plutôt que de se tenir à l'écoute de soi. Ainsi se trouve modifiée la structure même de l'individu. Certes, quelques randonneurs solitaires, des artistes et des écrivains, des adeptes de la méditation, des hommes et des femmes retiré dans un monastère, quelques visiteuses tombent et surtout des amoureux qui se regardent et se taisent, sont en quête de silence et restent sensibles à ces textures. Mais ils sont comme des voyageurs échoués sur une île bientôt déserte dont les rivages sont rongés. Or, ce n'est pas tant, comme on pourrait le croire, l'accentuation de l'intensité du tapage dans l'espace urbain qui constitue le fait majeur, grâce à l'action des militants, de législateurs, d'hygiénistes, de techniciens qui analysent les décibels, le bruit de la ville devenue haute n'est sans doute pas plus assourdissant qu'au XIXe siècle. L'essentiel de la novation réside en l'hypermédiatisation, en la permanente connexion et, de ce fait, en l'incessant flux de paroles qui s'impose à l'individu et qui le conduit à redouter le silence. Il est des lieux privilégiés où le silence impose sa subtile omniprésence. Oui, des lieux dans lesquels peut particulièrement s'opérer son écoute, lieux où souvent le silence apparaît comme un bruit doux, léger, continu et anonyme, lieu auquel s'applique le conseil de Paul Valéry. Entends ce bruit fin qui est continu et qui est le silence. Écoute ce que l'on entend lorsque rien ne se fait entendre. Il se passe quelque chose, il se dit quelque chose. Ce bruit couvre tout, ce sable du silence. Plus rien. Ce rien est immense, immense aux oreilles. Le silence est une présence dans l'air. Le silence ne se voit pas, écrit Max Picard. Et cependant, il est manifestement là. Il s'étend tout au loin. Oui, tout au loin. Et cependant, il est près de vous. Si près que vous le sentez comme votre propre corps. La pensée et les idées ne sont pas seules en cause. Les conduites et les décisions subissent cette profonde impression. Parmi ces lieux où s'impose le silence, se distingue la maison, ses salles, ses corridors, ses chambres et toutes les choses qui en constituent le décor, mais aussi certains moments privilégiés, les églises avec ses moments de silence, les bibliothèques où l'on étudie, où l'on consulte en silence, les forteresses et même les prisons. Nous choisirons d'entrée de jeu des exemples de ce qui est dit dans ces lieux au cours des 19e, 20e siècles. C'est qu'il s'agit d'un temps où s'approfondit le discours sur le silence des endroits intimes pour plus tard lier le silence au recueillement, à l'intériorité, qui autorise l'oraison, la prière et l'écoute de la parole de Dieu. Il est des maisons qui respirent le silence, où celui-ci, en quelque sorte, imprègne les murs. En notre temps, le peintre Hopper a magnifiquement exprimé cela. Il en est ainsi du Quesnay, la demeure du prêtre marié décrite par Barbet de Rilly. C'est dans le silence de cette maison, où le silence avait toujours eu tant d'empire, que le héros Noël de Néon, attendant le retour de Sombreval, veille Calixte. Dans le rivage des Sirtes de Julien Gracq, la présence du silence est centrale. Il règne dans le palais, la vieille demeure de Vanessa. Dans toute la ville, de Maremma, où il se situe, de la capitale Orsena. Bref, partout où l'on ressent la décadence. À l'intérieur de la maison, diverses textures de silence imprègnent salles, corridors, chambres, cabinets de travail. Le silence, objet primordial du célèbre roman de Vercors, est prégnant dans la salle du rez-de-chaussée où se tiennent l'oncle, la nièce et l'officier allemand Werner von Ebernach. Dès le troisième jour, ce dernier le ressent et le mesure avant même d'entrer. Après qu'il a parlé, le silence se prolonge et devient de plus en plus épais, comme le brouillard du matin. »